Vous écoutez, on lit pour vous.
Prendre soin de tous les vinyles, pas juste ceux d'angine de poitrine. Un texte de Dominique Tardif, paru le 18 avril 2026 dans la presse. Les mélomanes ont fait la queue devant leur disquaire indépendant pour le Record Store Day. Mais comment fabrique-t-on un vinyle? La presse est rendue chez Drummond Vinyl, une des deux seules usines du genre au Québec, pour le savoir. Ding-dang, ding-ding-dang, ding-ding-dang, ding-ding-ding-ding-dang. La porte de Drummond Vinyl est à peine entr'ouverte que le tintinabule microtonal du rock mathématique d'angine de poitrine se faufile jusque dehors. Au cours des deux derniers mois, la petite usine a manufacturé 30 000 exemplaires du volume 2 des Hurluberlus à poids. L'équipe d'Angine aurait pu décider de faire fabriquer leurs disques n'importe où en Amérique du Nord, dans une plus grosse usine, pense Jeff Beaulieu, cofondateur de Drummond Vinyl, l'une des deux seules entreprises du genre de la province avec le vinyliste dans la capitale. Qu'ils aient choisi de faire ça ici, au Québec, ça montre que ce qui leur importe, c'est l'art, et non la production de masse. Parce que chez Drummond Vinyl, les volontés d'un musicien sont reines, de la couleur du disque jusqu'à son emballage. Il y a un artiste qui m'a appelé récemment pour savoir si on était capable de faire un vinyle avec une étiquette Scratch and Sniff, s'amuse Marjo Millien. Sa sœur, Mary Foster, et elle sont les principales opératrices des presses. Dans leur salopette de travail orange, les frangines ont l'air d'appartenir à une sorte de laboratoire de recherche, et ce qui n'est pas si loin de la réalité. Quand les architectes sont venus ici et qu'on leur a annoncé qu'on avait besoin d'un boiler et d'un chiller pour chauffer et refroidir l'eau utilisée pour irriguer les équipements qui pétriront le plastique, ils se demandaient si on se lançait dans le nucléaire, se souvient Jeff Beaulieu. De l'artisanat à l'usine. C'est durant la pandémie que le chanteur Alex Henry Foster, partenaire d'affaires et de création de Jeff Beaulieu, s'est réveillé un matin avec l'idée d'une usine. L'industrie du vinyle faisait alors face à des délais d'attente sans précédent qui compromettaient la capacité de leur étiquette, Hopeful Tragedy Records, à s'approvisionner. Dans l'église de Drummondville que leur groupe, Your Favorite Enemies, a métamorphosé en son quartier général en 2009, ils fabriquaient déjà depuis 2012 des late-cut vinyls, une pratique artisanale ne pouvant donner que de petites quantités, parce que la musique y est gravée en temps réel. Mais une véritable usine? Il fallait non seulement s'équiper, mais surtout acquérir une expertise, une mission pour laquelle Marjo et Mary, qui travaillaient déjà au sein de l'étiquette, se sont portées volontaires. À l'été 2023, elles se sont donc rendues à Détroit pour un stage de plusieurs semaines chez Third Man Records, l'entreprise de Jack White, un des artistes qui auront le plus contribué à la résurrection du vinyle. Elles n'avaient jusque-là aucune, zéro, expérience en la matière. Ce qui m'excitait là-dedans, c'était d'entrer dans l'univers d'un artiste, se souvient Mary. Parce que faire des vinyles, ce n'est pas juste de peser start sur une machine, on participe à l'avènement d'un rêve. Pour fabriquer un 33 tours, ça prend d'abord du polychlorure de vinyle, PVC, agrégé dans un bloc de la taille d'un beigne ou d'une rondelle de hockey. S'il s'agit d'un disque splatter, couvert d'éclaboussures de couleurs, il faut apposer sur le beigne en question de petites particules, un peu comme si vous le saupoudriez de confettis. Des gants sont essentiels à ce stade, parce que pour se muer dans sa forme finale, la matière initiale doit être chaude. Les fragiles mains de votre journaliste, mises à contribution, l'ont appris à leurs dépens. La musique, elle, se trouve contenue sur un stamper, une pièce métallique qu'il faut bien nettoyer avant de la placer à l'intérieur de la presse, là où elle marquera les sillons sur le vinyle. La moindre poussière pourrait provoquer une pollution sonore sur chacun des disques auxquels le stamper donnera naissance. Il ne reste plus qu'à placer la rondelle à l'intérieur de la presse, à mettre la machine en marche et à observer l'objet informe se faire écrapoutir en un splendide disque dont il faudra ensuite découper l'excédent. Avec sa presse automatique, Drummond Vinyl arrive à produire 2 galettes à la minute. Le temps varie davantage pour la presse manuelle, sur laquelle sont créés les disques splatters, tous un peu différents les uns des autres, les confettis de couleurs n'étant jamais exactement disposés de la même manière sur chaque exemplaire. Si bien que tout ce processus ressemble étonnamment à un épisode de Ricardo. Comme une œuvre d'art. L'engouement pour le vinyle ne cesse de prendre de l'ampleur au Québec. Selon un rapport de l'Observatoire de la culture et des communications publié en août dernier, ses ventes ont bondi de 23 % entre 2023 et 2024, pour atteindre un nombre record de 332 000. Ici, à Drummondville, une commande n'attend pas l'autre, bien que les délais de production, de 8 à 12 semaines, n'aient rien à voir avec le bouchon qui a paralysé l'industrie durant la pandémie. On a reçu quelques appels paniqués dans les dernières semaines d'artistes qui se demandaient si la folie autour d'Angine de Poitrine allait faire retarder leur propre projet. On les a rassurés, assure Marjo Millien, opératrice de presse. Drummond Vinyl n'exclut pas l'idée d'augmenter sa production, mais ne veut surtout pas devenir un Costco du vinyle, ce qui serait contraire à l'esprit de ce produit qui, justement, n'est pas qu'un produit. L'inspection cérémonieuse de chaque album, comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art, en témoigne. Jack White l'a déjà dit, il faut que l'industrie du vinyle prenne soin de son marché, pour que le buzz ne soit pas qu'un buzz, fait valoir Jeff Beaulieu. Si on commence à faire des produits cheap, juste pour en faire plus, si tous les disques se vendent à 50 $, 60 $, les gens vont se tanner. Tout le monde gagne à ce qu'on prenne soin du vinyle. C'était « Prendre soin de tous les vinyles, pas juste ceux d'Angine de Poitrine ». Un texte de Dominique Tardif, paru le 18 avril 2026 dans La Presse.
La popularité monte en flèche partout au Québec. Un texte d'Henri Ouellette Vézina, paru le 29 avril 2026 dans La Presse. Autrefois réservé aux grandes villes, le vélo en libre-service connaît aujourd'hui une véritable ascension partout au Québec. Son utilisation a plus que quadruplé dans les 5 dernières années, au moment où le principal opérateur, Bixi, part à la conquête de plusieurs régions. C'est ce qu'on apprend dans « L'état du vélo 2025 », un document préparé tous les 5 ans par Vélo Québec pour suivre l'évolution de la pratique à 2 roues. Le libre-service, c'est littéralement une explosion que l'on constate, lance sans détour le président-directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rault. En 2020, à peine 4 millions de trajets avaient été enregistrés en vélo libre-service, VLS. 5 ans plus tard, en 2025, ce chiffre a atteint 16 millions. Au total, 641 000 Québécois ont utilisé, en 2025, un vélo en libre-service pour se déplacer, ce qui correspond à 19 % des cyclistes dans toute la province. Du nombre, la moitié ont utilisé un VLS plusieurs fois par semaine. Résultat, on trouve aujourd'hui près de 1 300 stations et 15 000 vélos accessibles pour tous dans 22 villes. C'est une augmentation fulgurante quand on sait qu'en 2009, seule la métropole offrait ce service. L'essentiel du bassin d'usagers provient de Bixi, mais aussi d'Avélo, à Québec. Lancé par le réseau de transport de la capitale, RTC, ce réseau entièrement électrique a augmenté de 70 fois le nombre de déplacements en 4 ans seulement. Le nombre d'adeptes a, quant à lui, été multiplié par 8 depuis 2021. Pour moi, ça montre qu'il y a une demande forte, mais surtout qu'on est chanceux d'avoir des opérateurs ambitieux au Québec, nous dit Jean-François Rault. Une offre élargie. Chez Bixi, on attribue ces augmentations marquées à plusieurs facteurs, dont la simplification de la tarification en 2021, l'ajout des vélos à assistance électrique qui facilite les déplacements aux expansions dans plusieurs autres villes et à l'allongement de la saison à l'année, même pendant l'hiver. Depuis quelques années, Bixi est parti à la conquête de plusieurs villes, dont Sherbrooke, Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Saint-Lambert, Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Boucherville, Terrebonne et Sainte-Julie, pour ne nommer que celles-là. Le nombre de stations est aussi passé de 26 à 75 à Laval et de 52 à 74 à Longueuil. 6 autres villes doivent se joindre au réseau cette année, dont Dorval et Dollard-des-Ormeaux, dans l'île de Montréal, 3 villes sur la rive nord et 1 sur la rive sud, qui seront annoncées à leur inauguration au courant de l'été. Cette expansion fera passer le total de municipalités desservies de 13 à 19. Année après année, des records d'achalandage sont battus. À l'automne 2025, près de 20 000 personnes avaient essayé le service pour la première fois pendant la grève de la Société de transport de Montréal, STM. L'intérêt pour le Bixi hivernal augmente aussi, avec une hausse des abonnements de 15 % par rapport à l'année dernière et une moyenne de 9 000 déplacements par jour. Mais surtout, Bixi rappelle que Montréal surpasse la plupart des villes comparables en intensité d'utilisation par vélo. En 2024, chaque vélo Bixi à Montréal était utilisé en moyenne 7,3 fois par jour, soit environ 43 % de plus que les 5,1 utilisations quotidiennes par vélo du système City Bike de New York. Le potentiel est immense. Plus globalement, la part modale du vélo a augmenté de 56 % en 5 dans les arrondissements centraux de Montréal. À Québec, ce chiffre a aussi bondi de 50 %. À ce jour, environ 5 Québécois sur 10 font du vélo de manière régulière, ce qui représente une hausse considérable depuis 2020. Quand on prend en considération qu'à peu près 38 % des gens seraient ouverts à l'idée de faire du vélo s'il y avait des aménagements sécuritaires près de chez eux, on réalise que c'est à peine 10 % des gens qui disent réellement non au vélo. Et ça, c'est remarquable. Le potentiel est immense, avance Jean-François Rault. En milieu urbain, la chaire de recherche mobilité de Polytechnique Montréal estime qu'entre 13 et 33 % des déplacements en auto pourraient être faits à vélo. on est à environ 7,8% en ce moment. Donc, il y a encore beaucoup d'espace, poursuit le PDG. Il lance ultimement un message à ceux qui seraient tentés de polariser le débat entourant les pistes cyclables. Fondamentalement, qu'on soit complètement à droite ou à gauche, on peut tous comprendre que le vélo peut faire avancer les politiques publiques. Ça coûte moins cher en infrastructure, c'est efficace, puis ça donne une liberté. Et en même temps, c'est bon pour l'environnement, pour l'inclusion de tout le monde. C'était « La popularité monte en flèche partout au Québec ». Un texte d'Henri Ouellette-Vézina, paru le 29 avril 2026 dans La Presse.
La saison des odeurs, un dossier de Lila Dussault, paru le 12 avril 2026 dans La Presse. De bon matin, vous sortez de la maison. L'odeur vous assaille, un parfum indescriptible de terre mouillée, chauffée par le soleil qui caresse votre peau, et de vous exclamer « ça sent le printemps ». Il n'y a pas que les ours qui sortent de leur tanière à l'arrivée des beaux jours. Les odeurs se réveillent aussi. Si toutes les saisons sont bonnes à être approchées par le nez, le printemps y est particulièrement propice. Et même s'il se fait attendre cette année, il finira bien par libérer ses effluves. Les odeurs sont des composés volatiles. Pendant les longs mois d'hiver, elles sont en grande partie gelées dans l'eau, nous explique Joanne Franelli, spécialiste de l'odorat et professeure au département d'anatomie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Quand le mercure monte, toutes les matières encapsulées par le froid se révèlent. « C'est comme lorsqu'on fait chauffer une soupe », décrit le chercheur. « Quand on la sort du frigo, elle ne sent pas grand-chose, mais quand on la réchauffe, beaucoup plus d'odeurs sont relâchées. » Dans le sud du Québec, on est privé des odeurs pendant les longs mois d'hiver, rappelle l'anthropologue et spécialiste en études urbaines Nathalie Boucher. Dès qu'on a accès à un autre paysage olfactif, comme celui du printemps et de l'été qui s'en vient, c'est un contraste qui se remarque, note-t-elle. L'odeur du printemps n'est pas la même pour tout le monde, précise-t-elle. Pour certains, ça peut être le purin étalé sur les champs prêt à être labouré. Pour d'autres, un stationnement chauffé par le soleil où on se réunit, faute d'espace vert. Mais qu'on soit en ville ou à la campagne, il y a un parfum que notre nez humain est capable de détecter en infime quantité, celui de la terre mouillée. Et la substance responsable de cette odeur a un nom, la géosmine. Le retour de la vie. Elle est difficile à décrire et pourtant immanquable, cette odeur qu'on perçoit après la pluie, l'été, ou encore lorsque le soleil réchauffe enfin la terre gorgée d'eau, au printemps. La géosmine est un petit terpène, terme de chimie désignant un hydrocarbure extrait d'huile essentielle et de résine végétale, détaille Brandon Findlay, professeur associé au département de chimie et biochimie de l'Université Concordia. Elle est produite par des milliers de bactéries vivant dans le sol, partout sur la planète, lorsqu'elles s'activent. Et pour s'affairer, elles ont besoin de plusieurs éléments combinés, comme de la nourriture, de la chaleur et de l'eau. Au printemps, les conditions idéales se réunissent. Les cycles gel-dégel aident à décomposer les matières organiques qui se trouvent par terre, comme les feuilles mortes, les livrant à l'appétit vorace de ces micro-organismes, décrit M. Findlay. Dès 4 degrés Celsius, mais encore plus autour de 16 degrés Celsius, les bactéries se mettent en action. La fonte des neiges et la pluie leur assurent un environnement humide, et plus elles s'activent, plus l'odeur qu'elles produisent, la géosmine, est puissante. C'est plus facile à voir dans une tulipe, mais la géosmine, c'est l'éclosion de la vie dans le sol, dit Brandon Findlay. Une substance mystérieuse. La science n'a pas encore percé tous les secrets de la géosmine. Selon des études, les bactéries produiraient cette substance pour signaler à leurs prédateurs qu'elles sont empoisonnées. Mais pourquoi les humains et plusieurs autres animaux sont-ils capables de détecter d'aussi infimes quantités dans l'air? Mystère. Surtout que si ces effluves sont assez plaisants, son goût ne l'est pas. Quelques gouttes de géosmine dans un bassin d'eau suffisent pour donner un goût de terre, affirme M. Findlay. La géosmine dans le vin est une aberration. On sait que dans le désert, l'odeur de la géosmine permet de trouver une oasis. En général, elle indique des sols riches. Donc, on se dit qu'elle avait peut-être une utilité pour nos ancêtres, explique le chercheur. Tandis que dans un liquide, elle alerte qu'il a peut-être été contaminé par des bactéries porteuses de poison. Un pont vers les émotions. Quelles odeurs associez-vous au printemps? Les lilas? Les premiers barbecues? Les produits nettoyants? L'odorat est un sens hors du commun. Dans le cerveau, les parfums sont traités dans la même région que les émotions et la mémoire, contrairement aux autres sens, explique M. Franelli. C'est pour ça qu'on peut convoquer des souvenirs précis et des sentiments très puissants par un simple arôme. Mais on n'utilise pas nos sens de façon isolée, ajoute le chercheur. Les senteurs du renouveau font partie d'un tout. La perception de la chaleur du soleil sur la peau, la vue des premiers bourgeons, la musique des pipiments d'oiseaux, et pourquoi pas les rencontres humaines. Car le printemps, au Québec, est synonyme de rassemblement, observe l'anthropologue Nathalie Boucher. On se retrouve dans les parcs, sur les terrasses, avant que tout le monde disparaisse en juillet et en août pour les vacances. On veut sentir cette chaleur, cette odeur-là. C'est comme si on avait été en carence pendant les mois d'hiver. Donc, il y a vraiment quelque chose d'exubérant dans cette saison, note Madame Boucher. Alors, allons-y, émergeons de nos maisons et humons le printemps. Du moins, dès qu'il daignera, enfin se montrer le bout du nez. C'était La saison des odeurs, un dossier de Lila Dussault, paru le 12 avril 2026 dans la presse.
Entre langage et couleurs, l'intimidation fragilise la jeunesse. Un texte de Florentine Chocotte, paru le 16 avril 2026 dans Le Franco. Être francophone en Alberta ne se résume pas à parler français. C'est aussi naviguer chaque jour entre différences et jugements. Pour de nombreux jeunes, leur langue, leur accent ou leur couleur de peau deviennent des cibles. Moquerie, isolement, cyberintimidation. Dans un contexte migratoire, grandir peut se transformer en un véritable combat pour s'affirmer et se sentir en sécurité. La Journée nationale contre l'intimidation, célébrée chaque dernier mercredi de février, prend tout son sens dans le contexte minoritaire. Comprendre, prévenir et soutenir demeurent les grands défis. Initiée en 2007 dans une école secondaire en Nouvelle-Écosse, la lutte contre l'intimidation s'est répandue. Elle vise à refuser toute forme d'intimidation, à soutenir les personnes discriminées et à promouvoir la gentillesse et l'inclusion. M. Yick Camara, directeur général adjoint et responsable des programmes à la Francophonie canadienne plurielle, FRAP, rappelle le domaine d'intervention de l'organisme. Nous intervenons à la fois dans la communauté et dans les écoles. La lutte contre toute forme d'intimidation et de discrimination est un véritable cheval de bataille pour nous, affirme M. Yick Camara. L'intimidation invisible et ses impacts psychologiques. L'intimidation ne se manifeste pas toujours par des agressions visibles. Chez les enfants issus de l'immigration, elle prend souvent des formes plus subtiles, mêlant des moqueries sur l'accent, la couleur de peau ou l'apparence. Farah Cheriette, psychologue agréée à l'Institut Guy Lacombe de la famille, observe que de nombreux parents consultent d'abord pour des changements de comportement chez leur enfant. Agressivité, crise ou réaction inhabituelle. À l'école, ces jeunes sont parfois perçus comme perturbateurs, alors que leur attitude cache souvent une autre réalité. Quand on creuse, on découvre qu'ils subissent des moqueries ou du rejet, surtout lorsqu'ils viennent d'arriver et ne maîtrisent pas encore les codes sociaux, explique-t-elle. Certains enfants, auparavant calmes, deviennent alors réactifs ou agressifs. Et chez les adolescents, cette détresse peut même mener à l'automutilation. On consulte pour des problèmes de comportement, mais la racine est souvent l'intimidation. Le regard de l'enseignant dans les écoles. Les enseignants sont souvent les premiers témoins de l'intimidation. À Edmonton, l'enseignant du primaire, Paul Kuat, affirme que le phénomène est bien réel. La Journée nationale contre l'intimidation est importante, mais dans ma classe, j'en vois presque chaque semaine. Les élèves se moquent parfois de l'accent, de la couleur de peau ou de l'apparence de leurs camarades. Et souvent, les victimes n'osent pas en parler. Pour intervenir, ils misent sur la sensibilisation continue, l'accompagnement des victimes et la responsabilisation des élèves fautifs. Prévenir l'intimidation, c'est bâtir un climat de respect et d'empathie. Cela se travaille chaque jour, pas seulement lors d'une journée de sensibilisation, affirme Paul Kuat. Fierté de l'accent et affirmation de l'identité. L'accent reste un marqueur sensible de la différence. L'accent francophone dans un environnement anglophone ou l'accent africain ou européen dans une communauté francophone peut devenir une cible. Nous encourageons les jeunes à être fiers de leur accent. C'est une part de qui ils sont. On peut avoir plusieurs identités et être fier de toutes, dit Yik Camara. Cette affirmation de soi, parfois fragile, nécessite un accompagnement constant dès l'enfance et tout au long de la scolarité. Au cœur de cette démarche, la résilience. Les jeunes sont appelés à construire leur confiance, à connaître leurs droits et à se défendre face à l'adversité. L'action repose sur l'éducation. Sensibiliser, prévenir et instaurer un climat respectueux demeurent les meilleurs remparts contre l'intimidation. C'était « Entre langage et couleur, l'intimidation fragilise la jeunesse ». Un texte de Florentine Chocotte, paru le 16 avril 2026 dans Le Franco-Canada.